rejoindre. Pendant ce temps-là, je salue Hugues Léger. Hugues Léger, on a du monde avec nous. Peux-tu nous, nous présenter nos invités que tu connais bien?
Oui, on est très chanceux d'avoir aujourd'hui la crème de la crème de Tennis Montréal. Donc, Nicole Nobert, qui est la directrice générale sortante, mais toujours bien présente aujourd'hui. Donc, on va parler en détail d'une longue carrière et belle carrière pour le tennis à Montréal, au Québec. Et Gabriel Trottier-Hardy, qui est le président du conseil d'administration de Tennis Montréal, dont je fais aussi partie en passant. Donc, on a une partie du CA aujourd'hui réunie.
Et là, tu voulais les inviter aujourd'hui parce qu'ils jouent quand même un grand rôle dans le développement du tennis au day-to-day, comme on dit, autant au niveau récréatif qu'au niveau compétitif. Peut-être nous expliquer un peu le rôle de Tennis Montréal. Au jour le jour, ça ressemble à quoi?
Bien, en fait, c'est une association sportive qui est là depuis plus de 40 ans. Et on œuvre principalement dans les parcs à Montréal, dans 14 régions sur 19 présentement, et aussi au stade IGA à l'intérieur. Donc, ça nous permet d'être une organisation annuelle versus ce que c'était auparavant, bien, une association qui était juste estivale du mois de mai au mois de septembre. Alors, on est dans la Gironde des clubs de tennis intérieur. On offre les mêmes services.
Pour moins cher.
Du junior. Oui, effectivement. Du junior à l'adulte, même aux aînés. Puis, effectivement, moins cher parce que nous sommes une OBNL, puis nous sommes aidés par la Ville de Montréal et tous les partenaires. Alors, évidemment, on est très différent d'un club, mais aussi bien outillé autant au niveau de l'école de tennis que le nombre de membres, puisque ce sont les Montréalais en partie.
Puis, quelle est votre implication avec l'Omnium Banque Nationale? Est-ce que vous êtes intégré dans une certaine planification? Est-ce que vous avez un certain rôle à jouer dans ce grand événement-là?
Oui, au niveau un peu populaire, donner des mini-cliniques de tennis pour les petits, donner des cliniques aussi. Et cette année, on était très chanceux, on a eu des pros avec nous, dont Gaël, mon fils, puis on a eu Alexis aussi. Ce qui auparavant, et c'est bon, effectivement, et on avait normalement une leçon à donner, mais maintenant, on nous a fait le cadeau d'avoir des pros. Alors évidemment, c'était un grand succès et les jeunes comme les parents étaient là au rendez-vous. C'était bien plaisant.
On a également un kiosque sur la promenade du sportif. Puis là, ça, c'est le rôle formel que Nicole parle. Mais Nicole, on va en parler tantôt. Nicole, c'est quelqu'un qui a un long historique dans le tennis, qui a été super impliqué dans l'organisation de l'Omnium Banque Nationale présentée par Rogers. Donc, je dirais que dans les dernières semaines, particulièrement avec la croissance chez Tennis Canada, puis la folie un peu pré-tournoi, bien, Nicole, disons, a passé énormément d'heures à partager toute son expérience avec, je dirais, pas mal tous les départements à Tennis Canada. Là, c'est une famille, on est dans les mêmes bureaux un peu. Donc, il y a une belle proximité avec Tennis Québec, Tennis Canada aussi.
Et toi, Gabriel, tu es aussi impliqué cette semaine là, au-delà de ton rôle avec Tennis Montréal. Peux-tu nous donner des indications sur ce que tu fais aujourd'hui en plus de ton rôle à Tennis Montréal?
Oui, en fait, je fête mon 20e anniversaire dans l'organisation du tournoi. Je dis un petit peu à la blague que c'est mon club med en fait de l'année. Là, en fait, donc, belle famille Tennis Canada. Moi, je suis en fait animateur sur le site. Donc, après tous les matchs sur le court central avec le joueur ou la joueuse gagnante, je vais aller faire une petite activité, un petit jeu rigolo là, où on interagit avec la foule. J'anime les matchs de hockey. J'analyse les matchs de hockey-ball, de soccer là, qui opposent les joueurs professionnels aux joueurs de hockey, aux joueurs de soccer. Donc, tout ce qui est animation sur le site, j'ai mon talk show deux fois par jour aussi qui est présenté sur l'écran. Donc, tout ce qui est animation sur le site. Bien, je suis impliqué là-dedans depuis 20 ans. Puis c'est d'ailleurs Nicole qui, à l'époque, m'avait fait entrer dans le tournoi, en fait, pour donner les leçons de tennis en public, alors que j'étais entraîneur à Tennis Montréal. C'est un petit monde, le tennis.
Bien, mais ça. Puis tu fais tout un travail, d'ailleurs. Comment s'est passé l'anniversaire de Félix Auger-Aliassime? Tu étais aux premières loges.
Oui. Bien, en fait, c'est finalement sorti. Là, on a une capsule, puis je pense qu'il va y avoir des petites suites là, qu'on pourra montrer tout au long de la semaine. Mais c'était une double surprise pour Félix. En fait, Félix, on le sait, a de multiples talents. C'est un pianiste aussi, à 16 heures. Il fait ça pour se détendre un petit peu. Donc, on avait pensé faire un clin d'œil. On essaie toujours de faire des clins d'œil avec l'univers culturel, l'univers sportif du Québec. Donc, on avait fait venir un beau piano. Il y a toujours des plans A, plan B, plan C. Au départ, on y allait évidemment à grande envergure. Piano à queue sur le central. Là, il y avait de la pluie, c'était très lourd. On ne voulait pas marquer le central non plus. Donc, on est allé avec un plan quand même qui était super beau au niveau du look, mais un tout petit peu plus prudent. Donc, on a placé un piano. On a fait venir Alexandra Strelitsky, une grande pianiste qui est extrêmement populaire partout. Là, je l'écoute religieusement. Et puis, ils ont pratiqué une pièce ensemble un petit peu. qui était déjà une belle surprise pour Félix, mais ce que Félix ne savait pas, c'était la veille de son anniversaire, on lui arrivait de Los Cabos, et son agent, sa famille, lui avait organisé une surprise au stade. Donc, il y avait, je dirais, peut-être 60, 70 personnes qui, à la fin du tournage, alors qu'il terminait de pianoter, Alexandra s'est mise à jouer un petit air d'anniversaire, et là, il s'est retourné. Et il a vu toute sa famille, tous ses amis, vous pouvez le voir en ligne, c'est un peu partout présentement. Et il est devenu très ému. Donc, c'est, moi, pour être là, avoir été là en personne, puis avoir été un petit peu dans les coulisses, c'était vraiment un beau moment.
Nico, est-ce que tu as une question pour nos invités ici en studio?
À quel point sentez-vous au quotidien, puis on le voit avec l'engouement de l'Omnium Bank National, d'autant plus les jeunes, je me rappelle quand Yannick Sinner, Gaël, mon fils, sont venus dans le week-end de la famille, est-ce que vous sentez à chaque année l'engouement des plus jeunes envers notre sport?
Mais je pourrais vous dire que cette année, dans nos activités, les enfants étaient de plus en plus jeunes, à ce point que, comme on commence, nous, avec les jeunes de 3 ans, c'est un programme qui est très populaire, bien, j'allais mener l'enfant de 3, 4, 5 ans vers les pros. Et ça, ça ne nous était pas arrivé auparavant. On a des jeunes, on a beaucoup d'ados, on a beaucoup de jeunes qui jouent au tennis, d'autant plus que vendredi, c'était la journée où on amenait tous les jeunes de nos parcs. Au lieu de donner des cours, bien, ça faisait un cours. Et c'est là où on a vu le plus d'enfants. Alors, on en avait de tout âge, mais oui, l'engouement est de plus en plus
grand. Ce qu'on réalise aussi, c'est que les jeunes reconnaissent les joueurs de plus en plus.
Oui.
Puis de l'autre côté, bien, je dirais, ce qui nous a brisé le cœur avec la COVID, puis on peut en parler, on a eu plusieurs réunions de CA où on essayait de trouver des solutions, c'est que c'était très difficile. On avait un dada à nous vraiment développer des habiletés motrices 3, 4, 5 ans, au-delà du tennis, mais vraiment aller chercher les fondamentaux. Avec la COVID, les règles, c'était difficile d'organiser des cours qui suivaient les règles de la santé publique. Mais on y travaille fort, puis je pense qu'on va avoir des beaux trucs pour l'automne.
Nicole, j'aimerais que tu me parles de ton parcours. On a parlé de toi beaucoup aujourd'hui. Tu as un parcours riche dans le tennis depuis plusieurs décennies. J'aimerais que tu me parles de tes meilleurs moments, puis comment tu as vu l'évolution du tennis durant cette période-là aussi?
Bien, en fait, l'évolution du tennis, c'est fait par le fait aussi que c'est devenu populaire, puis qu'on répondait toujours à la demande. Ce qui est plaisant, c'est ça, c'est que ça a commencé petit, et au fur et à mesure que ça grandissait, ben nous, on grandissait aussi. Quand je suis rentrée à Tennis Montréal, il y avait 3 activités. Il y avait les ligues, et il y avait un tournoi, puis il y avait des cours adultes. Les cours juniors l'été, bien sûr, le jour. Et maintenant, la liste est longue, c'est un cahier complet. Alors, évidemment, on touche à tout le monde. On en a touché même au fauteuil, on touche à tous les niveaux. Le tennis, il ne se réinvente pas. On va toujours pouvoir, au fur et à mesure que les demandes vont être là, pouvoir répondre parce que, justement, c'est le public et c'est les membres qui nous demandent d'avoir un service. Alors, nous, on est juste là pour répondre à cette demande. Ouais. Alors, mon parcours, il s'est développé avec l'organisation. Au départ, j'étais là comme personne qui devait développer, en faire une association annuelle, comme j'ai expliqué. Et j'arrivais avec un background comme quoi j'étais du milieu privé, donc j'étais entraîneur-chef d'un club pendant 20 ans. Quand je suis arrivée ici, c'était justement de faire une programmation qui pouvait offrir à la population montréalaise un programme complet. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée. J'ai commencé à être et à la fois à l'administration et sur le terrain pour mon expertise, former les entraîneurs, faire de la formation en continu, ce qui faisait qu'on avait un programme uniformisé dans tous les parcs. Ouais. Ça, c'était au départ, c'était mon objectif, c'est qu'on ramenait le tennis à une base où si tu suivais un cours au parc Nicolas Viel ou au parc La Fontaine, ben, tu avais les mêmes standards, tu avais les mêmes services. Et c'était à ce point uniforme qu'il y avait une programmation unique, c'est-à-dire que partout à Montréal en même temps, lundi matin par exemple, Gabriel, tu t'en souviendras, c'était les petits 5-6 ans, partout. Lundi, mercredi, vendredi, tu avais tous les petits. Après ça, ça montait comme ça les mardis, jeudis avec les jeunes plus avancés. Puis je vous dirais que ce modèle-là, qui a commencé avec la ville de Montréal, parce qu'à l'époque, j'ai travaillé un peu sur ce plan-là, ben, il est encore là. Et il ne se démode pas. On a beau essayer de le faire de toutes les façons. On a des challenges, évidemment, parce que là, présentement, évidemment, les enfants sont dans les camps de jour le jour et ils ne sont pas nécessairement disponibles. Il nous manque à peu près que ça dans notre programmation, mais on cherche d'une façon très intensive d'avoir, lorsqu'il pleut, des locaux à l'intérieur. Oui. Alors, c'est l'objectif, je dirais, un des derniers objectifs à atteindre, ce serait de pouvoir offrir à la population des camps de jour à peu près partout à Montréal. Ouais. Mais comme ce sont les loisirs qui sont dans les locaux, ben là, à ce moment-là, nous, on a peu de place.
Appel à tous. Donc, ça va être un sujet chaud sur lequel on va travailler.
C'est l'objectif des prochaines années.
Et Nicole, c'est quoi les plus grands changements, évolutions que tu as vus durant ta carrière dans le monde du tennis? Au-delà de la popularité, effectivement, qui est grandissante, on a développé des champions au niveau mondial maintenant, ouais. C'est sûr que ça aide. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est les infrastructures?
Un peu tout ça. Ouais. Évidemment, la technologie au niveau des raquettes, une avancée énorme. On s'entend, on est loin de la petite raquette en métal.
En bois.
Là, en bois, là, oui, c'est ça. Elle la verdure, là, on se souviendra.
Lucien
la verdure, tout à fait. Les raquettes s'appelaient d'ailleurs elle la verdure. Oui. Alors, effectivement, la technologie, vous savez, on jouait avec des balles blanches avant. On avait ça avec des balles jaunes, des balles oranges, des balles. Et maintenant, on est rendu avec 5 sortes de balles parce que du petit tennis à la balle régulière, il y a toute une panoplie de balles.
Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, en fait. Pourquoi? Oui. C'est que le rebond de la balle, quand tu as 5 ans, tu ne peux pas le gérer de la même façon que quand tu as une balle normale rebondit très haut, et difficile à contrôler.
Elle est lourde.
Elle est plus lourde. Donc, les balles pour des débutants sont plus légères, sont en mousse, en fait, le premier niveau. Donc, sont plus faciles à contrôler. Et ça aide à commencer à aimer le tennis plus tôt. Parce que si tu ne réussis pas, tu vas te décourager.
Et ça, vous pouvez le voir cette semaine. En fait, vous voyez, à chaque match, il y a les petits arts. C'est un programme de la Banque nationale. On voit deux jeunes qui viennent, qui accompagnent les joueurs. Mais à chaque année, on fait des démonstrations aussi sur le court central, entre autres avec les joueurs. Le modèle dont vous parlez, en fait, vient de la Belgique. C'est les frères Rocus à l'époque, Justin Hénin, tout ça, qui ont parti ça. Puis ça donne, en fait, un enfant qui a 4-5 ans, un revers à une main à la Varinka. C'est incroyable. Donc, ça développe vraiment les mains.
Effectivement. Puis quand on parle de balles et de raquettes adaptées, c'est parce qu'aussi le terrain est adapté. Exact. On s'entend. Alors, quand on voit deux enfants de 5 ans essayer de s'échanger la balle de fond de terrain, on essaie de les rapprocher et leur dire peut-être qu'on pourrait commencer sur une plus petite surface.
Ouais.
Fait qu'il y a eu ça. Il y a eu tous les changements au niveau des surfaces aussi. Mm-hmm. On s'entend. Moi, j'ai commencé sur terre battue ici au Parc Jarry où il y avait 20 terrains de terre battue à l'extérieur. C'est une surface longue. La ville a entièrement enlevé tous ces terrains, puis ça coûtait trop cher au niveau de l'entretien. Et là, on est devenu avec des surfaces dures, des surfaces rapides. Alors là, le tennis a changé. Et c'est sûr, les techniques ont changé. Les athlètes ont commencé à s'entraîner. Je ne sais pas si vous savez, mais au départ, tu vas au tennis, tu devais être en forme, mais alors que maintenant, il faut que tu sois en forme pour jouer au tennis. Alors, c'est comme un peu l'envers de la médaille. Alors, c'est comme ça que ça a changé. Les entraîneurs sont mis aussi à se former. Moi, quand je commençais ma carrière, on m'appelait moniteur de tennis. Ouais. Maintenant, moi, j'ai le nom de coach ou d'entraîneur. J'aime mieux ça. Parce que les moniteurs de parc, souvent, c'est pour faire.
C'est
pour surveiller.
Voilà, c'est ça. Et j'avais pas, moi, en tout cas, à l'époque, j'avais pas cette formation-là. J'étais allée quand même me former un peu partout dans le monde. Alors, ce qui fait que, en quelque part, c'est ça qui a changé. Les infrastructures, on s'entend que dans les années 75-76, quand les clubs de tennis ont ouvert, c'était la manne. C'était 10, 12, 15 clubs en même temps qui sont ouverts à raison de 5 à 10 000 membres. Les uns et les autres le plus UP possible, le plus équipé possible, le plus de meilleurs pros possible. Alors, bref, et ça l'a amené énormément au niveau du tennis.
Ouais.
Et c'est de là que ça a parti. Alors, ça n'a jamais arrêté. Il y a eu une petite baisse. Et là, ça a marché.
Nico, qui est au club, tu as une question pour nous inviter.
Alors qu'on remixe du bon Michel Fugain, on parle de formation. À quel point, au-delà de former de bons joueurs de tennis, vous voulez former de bons êtres humains, de bons jeunes qui vont d'une part avoir du plaisir, mais qui vont aussi entrer dans une mentalité d'avoir de bonnes habitudes de vie, de se faire des amis. À quel point la notion de tennis n'est pas nécessairement toujours prioritaire?
Je vous dirais que nous, si je parle juste peut-être du programme de haute performance, quand je fais la réunion au départ, la première chose qu'on dit, on dit qu'on est une grande famille et que nous, d'abord et avant tout au centre, c'est l'enfant. Et là, oui, à travers le tennis, il va apprendre des habiletés, mais il va apprendre aussi tout ce qui est formation au niveau d'un athlète. Et mes entraîneurs, en tout cas l'équipe de haute performance, sont très axés là-dessus. Ils sont tous parents eux-mêmes, donc ils ont des valeurs personnelles qu'on veut transmettre. C'est un peu ça qui nous démarque, parce que nous, on est petits. En termes de haute performance, on n'a qu'un sport-étude de 16 athlètes, alors qu'ailleurs, on en a 50-60. Alors, c'est très personnalisé. Alors, les parents, on les a dans le bureau pratiquement tous les jours. On vit avec, les parents sont là et les enfants aussi. Alors, c'est d'abord et avant tout de former des bons jeunes. Ben, le reste va venir, s'ils ont du talent et s'ils travaillent fort, ça va arriver. Et la preuve, ça l'arrive. Là. Un Alexis Galarneau, ça sort de chez nous.
Oui, puis peut-être pour enchérir un petit peu là-dessus, parce que bon, j'ai été recruté par Nicole, puis il y a eu plusieurs trucs. Un, je pense qu'au niveau recrutement d'entraîneurs en général, il y a vraiment, on doit avoir des valeurs communes, que ce soit pour la haute performance, pour le récréatif.
Oui.
Puis pour ce qui est d'autres performances, des programmes où il y a un petit peu plus de sélection, évidemment, on va regarder si les enfants partagent ces valeurs-là, mais je me permets de dire aussi que souvent, on fait la blague, mais on fait de la détection de parents aussi. Là.
Tout à fait.
Parce que c'est un tout. Faut qu'il y ait un match commun.
Ouais.
On a des valeurs qui sont les nôtres. Il y a d'autres clubs qui en ont d'autres. Puis on s'assure justement que ça entre dans ce moule-là de respect, d'être dédié, de passion, etc.
Ben, ça, c'est certainement quelque chose qui nous unit, toute la gang, la passion pour le tennis. Si on veut aider Tennis Montréal, si on veut vous encourager, c'est parce qu'il y a une possibilité de faire des dons, est-ce qu'il y a possibilité de vous aider de toutes sortes de manières?
Là, Nicole me regarde, ben, en fait, puis là, je regarde mon autre membre du CA ici. Il y a tout un élément, je pense, renommé, en fait, d'être reconnu. Il y a toujours une confusion des genres entre Tennis Québec, Tennis Montréal, Tennis Canada. Oui. Souvent, on se fait contacter pendant le tournoi. Les gens pensent que c'est nous qui organisons le tournoi. Des fois, c'est prestigieux.
Et là, vous dites oui.
Ben là, ben c'est oui, ça. Oui. Mais bon, en fait, je dirais, un, pour connaître les activités, ben, il y a le site Internet, mais moi, je dirais de devenir fan de la page Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. On est sur toutes ces plateformes-là.
Oui, on est bien outillés.
On a une équipe dédiée de professionnels aussi qui peut répondre à ces questions-là. Si vous avez des demandes, même des nouveaux projets, vous pouvez nous contacter. Puis après, ben pour les différents autres niveaux, que ce soit les ligues adultes, les cours haute performance, ben, il y a toujours des sélections ou des inscriptions.
Parlez-nous un peu de l'accessibilité, des coûts, évidemment, les sources de revenus, sont les subventions d'une part, sont le membership, les commanditaires partenaires aussi, donc ça, c'est les trois grandes sources de revenus.
Bon point.
Au niveau accès, parlez-nous un peu de pour les membres, combien ça coûte, comment ça se passe. Je veux commencer à jouer au tennis, j'ai 28 ans, j'aimerais ça.
En fait, pour les enfants, jouer au tennis, c'est gratuit sur les terrains. La Ville de Montréal nous a gracieusement les terrains pour les petits. Évidemment, l'été et l'hiver à moins 30 en short, c'est un peu frais. Mais pour les adultes, par contre, lorsqu'ils payent la carte de membre pour leur permettre d'avoir accès à nos activités pour pouvoir s'inscrire, ben, ils ont tout le mois de septembre gratuit. Alors, si vous comptez rapidement, vous allez jouer dans un parc où ça coûte 10-12 $ de l'heure. Mais après quatre fois, vous avez payé votre carte de membre et vous pouvez jouer tout le reste du mois. Alors ça, c'est très avantageux. Moi, je pense que tout joueur de tennis à Montréal, même s'il ne veut pas participer à nos activités, devrait ne serait-ce que prendre la carte de membre pour jouer tout le mois de septembre, qui est maintenant le plus beau mois au tennis. On s'entend, avant, on se pensait que c'était le mois de mai, juin, maintenant, on commence plus tard, la température n'est pas aidante. Mais au mois de septembre, à date, jamais on a eu une mauvaise mois de septembre. Alors, les saisons ont complètement changé.
Puis pour les cours, Nicole, peut-être rapidement, que ce soit pour les cours récréatifs juniors l'été ou adultes.
Oui, bien, en fait, le plus facile, c'est d'aller sur notre site, parce que la programmation est assez vaste. Elle s'offre à tous les niveaux de jeu, tous les âges, comme on disait, de 3 ans, aux ligues où on a des ligues d'aînés. Les cours, c'est dans tous les parcs, en soirée, en fin de semaine. Des ligues, on en a récréatives. Récréatives, c'est t'as pas de partenaire, on organise les gens pour qu'ils puissent s'amuser, jouer. On a des ligues aussi compétitives où on y va par partenaire avec des équipes ou même en simple. Alors, un joueur de tennis, s'il nous appelle ou s'il nous écrit, c'est clair qu'il y a une place pour nous en quelque part. Notre seul bémol, c'est qu'on a beaucoup de listes d'attente.
On est victime de notre succès.
Parce qu'on est victime, effectivement, de notre succès.
Surtout l'hiver. Mais puis en termes de coûts, moi, je veux revenir à ça parce que je pense que c'est aussi le tennis, la réputation d'être un sport qui est très, très cher, qui est réservé à une élite. Nous, on s'est donné aussi comme mission d'être le plus accessible possible. Nicole l'a dit, on est un OBNL, mais 8 semaines pour un enfant l'été,
et 65 $.
C'est 65 $.
Puis ils viennent 3 fois par semaine.
Ça, c'est quand l'entraîneur et ça s'en tient au. C'est ça. Moi, disons que dans le temps, j'avais ce que j'appelais des rock-parks qui arrivaient à 8 heures le matin, qui partaient à 5-6 heures le soir.
Ben, puis, moi, c'est ce que je faisais quand
j'étais. Ben oui, c'est comme ça que tu développes d'Alexis Galarneau puis des bénévoles.
Nicole, il y a un gros programme l'idée par Tennis Canada en ce moment sur l'équité des genres dans le tennis. C'est un sujet qui prend les devants en ce moment au niveau du développement des joueuses, des joueuses pour leur après-carrière. Comment tu évolues comme coach, au niveau de l'administration aussi. J'aimerais que tu nous parles de toi, comment tu as vécu ta progression en tant que femme pionnière aussi dans le domaine du tennis. Donc, tu étais une des précurseurs, en fait. Là.
Oui, mais ça n'a jamais été une embûche. Tu sais, j'étais la 12e d'une équipe de gars au privé. On était 10 filles privilégiées qui enseignaient le tennis dans les clubs. Il y en avait une par club.
Ouais.
Et on n'a jamais vu ça.
Au Club Med,
bien ça, c'était pour aller chercher de l'expérience. Puis quand je suis revenue, bien évidemment, je n'avais. J'avais enseigné à des milliers de personnes.
Ouais.
Mais le tennis nous a jamais fermé les portes. Mais on était aussi toutes des maniaques passionnées. Les filles qui ont travaillé avec moi, et il en reste encore quelques-unes, on est tous pareils. On n'a jamais senti ça. Parce que on s'est occupé de nos membres, on s'est occupé, et les membres ne voyaient pas de différence entre je veux un homme ou je veux une femme. Et au contraire, moi, quand j'ai commencé à Val des Armes, ils voulaient un homme et une femme à la tête du club. Ils ne voulaient pas avoir que des hommes ou que des femmes. Et ils ont vraiment travaillé là-dessus. On parle de ça il y a 40 ans, là. Alors, moi, je n'ai jamais vécu cette discrimination. Je ne l'ai pas non plus dans mon équipe. Quand on fait l'entrevue, que ce soit un gars ou une fille, il y a les critères. Si tu fites dans l'équipe, tu vas entrer avec nous. C'est pas il m'en faut 10 comme ça ou 12.
Ouais,
l'objectif, c'est est-ce que tu es capable de faire partie de cette équipe de 45 entraîneurs? Si oui, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Je ne m'adresse pas à qui que ce soit en termes de discrimination ou quoi que ce soit, ni en termes d'ethnie non plus, parce que on en a à toutes les régions, toutes les langues, et ça fait mon bonheur parce que quelquefois, ça peut nous dépanner. On s'entend, c'est multi-ethnique Montréal, et surtout certains secteurs. Et on peut au moins être capable, si on a besoin d'avoir de l'aide, mon équipe est là, elle est disponible. Non, je n'ai pas vu pour moi, en tout cas, ils me l'ont peut-être pas dit, mais je n'ai jamais senti.
Ben merci beaucoup infiniment de votre présence ici. On vous laisse retourner à vos tâches. Tennis Montréal, Omnium Banque Nationale, même chose pour toi, Gabriel. Et vous savez quoi? Dites tantôt comment on peut vous aider sur le niveau de la notoriété. Gabriel, pourquoi tu ne viens pas régulièrement sur le podcast? On va t'inviter, tu t'exprimes tellement bien. Tu es un maniaque de tennis, on va t'arranger ça. Peut-être quelque chose de régulier, là, deux fois par mois, peut-être.
On
s'en reparlera.
Avec
là,
grand plaisir.
Ça serait le fun. Je vous laisse aller. En attendant, Hugues, le temps qu'on laisse sortir nos invités, Alexis Galarneau était tout sourire en conférence de presse. On a quelques minutes de ça, conférence de presse.
Alexis, à quel point tu es fier de toi?
Extrêmement fier. Aussi fier de mon équipe, de ma famille, qu'on s'est rendu jusqu'ici. Donc, c'était une super belle journée pour moi et ma famille et mes amis.
Oui. À propos des grosses pointures, est-ce que c'est bon pour l'expérience? J'imagine que oui.
Extrêmement, oui. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, ça va me faire beaucoup progresser au niveau mental, tennistique, tout ça. Donc, ouais.
Oui, salut Alexis, félicitations malgré tout pour ton match en Masters Mill. Tu disais c'était contre Botic Van de Zandschulp quand tu l'as affronté, que ça s'était joué à pas grand-chose, que c'était peut-être un peu mental, puis que c'était ce que ça allait te permettre de progresser un peu. As-tu l'impression que ça ressemblait à ça dans la mesure où tu avais les commandes en deuxième manche, ça en est fallu de peu. Là. Est-ce que c'est le même genre de match à ce niveau-là?
Ouais, je pense que les deux matchs, ça me montre que j'ai le niveau tennistique. Après, c'est l'expérience. On peut pas acheter l'expérience. Donc, c'est de faire des tournois comme ça, c'est de jouer des matchs comme ça. Donc, c'est super pour l'expérience.
Alexis, est-ce que tu as été surpris par l'engouement médiatique, puis comment toi et ta famille avez vécu les derniers jours?
Ouais, pour être honnête, je ne m'attendais pas à avoir autant de demandes médiatiques, tout ça. Donc, c'était super comme expérience. On a bien managé ça avec ma mère. Donc, ça, c'est un autre aspect où est-ce que je suis fier de mon équipe et de moi. On a bien géré ça.
Salut Alexis. Est-ce que c'était comme un rêve sur le terrain? Est-ce que tu as eu du mal à rester concentré dans ton match? Est-ce que à certains moments, il fallait que tu, pas que tu te pinces, mais que c'était plus compliqué d'avoir un match normal vu les circonstances?
Oui, surtout quand je suis revenu sur le terrain après l'arrêt. T'sais, j'ai eu le temps de décompresser un petit peu, puis je suis revenu sur le terrain. J'avais envie de retourner sur le terrain tout de suite. On est quand même retourné assez vite, puis c'est sûr que j'ai réalisé un petit peu plus qu'est-ce qui se passait, tout ça. Mais je pense que je me suis bien refocusé sur le match, puis je me suis vraiment amusé sur le terrain, là.
Salut Alexis, ça va peut-être être un peu cruel, mais tu peux-tu nous ramener à comment tu te sentais à 5-3, deuxième manche, tu servais pour le 7 à ce moment-là? Est-ce que tu as réussi à rester concentré? Est-ce qu'il y a eu un peu de nervosité? Ramène-nous justement à ce moment-là.
Oui, je m'en rappelle très bien. C'est un moment important dans le match, on s'en cachera pas. Par contre, il n'y avait pas de nervosité, je pense que j'ai bien géré ça. Je pense que c'est surtout l'expérience de Dimitrov qui a joué des bons points dans ces moments-là. Puis c'est une bonne expérience, puis c'est aussi une bonne occasion d'apprendre de qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Merci.
Alexis, ouais, t'as un grand sourire. On voit encore. J'aimerais ça que tu reviennes sur le début en fait du match. Quand t'es rentré dans le stade, c'est clairement le plus grand stade dans lequel t'as joué, la plus grosse foule devant laquelle t'as joué. Raconte-nous comment tu te sentais à ce moment-là. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu t'en souviens? Même souvent les athlètes s'en souviennent pas.
Ouais, j'essayais de rattraper aussi la personne qui avait, la petite fille qui était avec moi, mais elle était un peu vite. Mais non. Tu sais, je suis tellement venu à ce tournoi-ci que c'était pas, c'était rien. Oui, c'était spécial parce que c'était mon nom, il y a ma famille que je voyais au loin, j'ai mon équipe que je voyais juste à côté du terrain. Mais j'étais prêt pour ce moment-là. Ça fait longtemps que je le rêve puis que je le visualise. Donc, j'étais content de le réaliser puis d'avoir un accueil aussi chaleureux.
Est-ce que c'était comme dans tes rêves?
Hugues, on est de retour pour faire le résumé de ce qui s'est passé hier. On avait un Alexis Galarneau, tout sourire en conférence de presse. Tu disais,
avec raison.
Si moi aussi j'avais joué comme ça devant Grigor Dimitrov, je serais tout sourire.
Ça n'arrivera pas, là, mais j'avais bien. On a toujours peur de se dire, bon, il est pas assez proche. Là. Il aurait dû avoir un troisième set. Il s'est fait remonter un peu, mais il voit qu'il peut se frotter de manière... enviable à un top 20 mondial. Là. Donc, je pense qu'il en ressort que du positif. Il était souriant, serein. Et je pense qu'il va aborder le reste de la saison avec beaucoup de confiance. Là, il sait jusqu'où il peut aller. Il y a goûté. Là. Il y avait une avance de 5-2 au deuxième set. Donc, très, très, très belle performance d'Alexis.
Je ne peux pas y mettre plus de pression qu'il faut, mais j'ai l'impression que de la façon dont on l'a vu jouer hier, c'est un gars qui peut aspirer au top 50 peut-être l'année prochaine. C'est pas, il n'y aura presque pas de points à défendre.
Oui. Il a très bien servi, il a démontré qu'il a toutes les armes pour rivaliser à ce niveau-là. Fait que je pense qu'on peut viser un top 100 plus tôt que tard pour Alexis Galarneau avec plein de confiance.
Autre match qu'on a vu rapidement, un mot sur Chapeau hier, ça n'a pas été trop long.
C'est ce qu'on s'était dit, ça se jouerait sur 2-3 coups, il n'avait pas le choix de rentrer fort. Il servait au retour à 3-3, double faute d'entrée de jeu. Ça s'est terminé très rapidement. On a vu en conférence de presse, lui, il était déçu et ça paraissait. Conférence de presse.
Réponse courte.
Courte et laconique, c'était dur. Là. Évidemment, il a vécu peut-être ses plus grands moments ici avec cette fameuse victoire contre Nadal. Ça fait 5 ans aujourd'hui en passant.
C'est l'anniversaire aujourd'hui,
oui. Oui. Fin abrupte pour Denis.
Par contre, pas de fin pour Bianca Andreescu qui a été particulièrement rassurante hier. Écoute, on avait beaucoup de doutes, on se disait « Oh mon Dieu, que ça va être compliqué ». Et hier, dans un long match, dans un match contre une fille du top 10 maintenant…
Sortante d'un titre, il y a une semaine
qui arrivait en jambes. Honnêtement, c'est rassurant ce qui s'est passé hier dans le cas de Bianca.
Hier, c'était du Bianca classique. Elle semblait souffrir physiquement, c'était assez pénible. Elle a bien joué, elle a sorti ses grosses armes au bon moment. Et on voit ce qu'elle peut produire dans les moments clés. Moi, elle m'impressionne, Bianca, là. Mais hier, encore une fois, on se dit, est-ce qu'elle va s'évanouir? Est-ce qu'elle va tomber? Elle n'avait pas l'air bien. Elle est passée à travers. Et comme elle est là, elle a montré beaucoup d'instinct, de survie. Elle s'est bagarrée tout le long du match. Et elle a finalement emporté ce match-là au deuxième set. On est vraiment content de l'avoir au prochain tour. Mais elle bat Kazatkina, une des meilleures joueuses du circuit en ce moment, tenante du titre il y a une semaine. Chapeau, Bianca Andreescu. Mais c'était un pattern de match comme on a vu tellement de fois quand elle a bien performé hier. Donc, très belle victoire.
Et contre Alizé Cornet, tu t'attends à quoi? C'est une fille qui est dure à prédire, ouais. Alizé Cornet, un peu capable du meilleur comme du pire.
Alizé Cornet, française, qui a battu Caroline Garcia, qui en jambe en ce moment, qui a battu Swiatek il y a pas longtemps. Donc, Cornet, beaucoup d'expérience. Ça va être un autre match difficile, mais je ne peux jamais, comme pour Léla, parier contre elle, parce qu'elles ont les armes, elles ont la force mentale, la résistance, la résilience, cet instinct de survie qui les rend presque imbattables quand elles sont sur leur jeu. Donc, je m'attends à un match extrêmement serré, un autre 3-7, mais point d'interrogation encore sur son physique. Elle n'a pas l'air bien physiquement. Elle courait un peu moins bien en fin de match hier. On verra si elle va tenir le coup physiquement.
On verra ce qui va se passer dans le cas de Bianca Andreescu. Restons à Toronto, le temps d'une seconde pour dire que ouais. Leila Annie Fernandez a rencontré Béatrice Haddad de Maillard. C'est pas une fille qu'on connaît beaucoup, mais qui est quand même 24e mondiale. Alors, quand tu affrontes une fille du top 30, tu peux rien prendre pour acquis, surtout si on tient, si on sait que Leila Fernandez n'est pas à 100%. Ouais, ouais. En même temps, ce qu'elle a montré, elle aussi, c'est rassurant.
Oui, oui. Je pense que ce match-là est à sa portée de Leila. Même si le match n'avait pas été son plus grand match au premier tour, elle a pu tester ses limites. Elle était dans le 3-7. Elle a trouvé des solutions et à l'opposé de Bianca, physiquement, elle avait l'air à 100%, elle est là. C'est mentalement, elle manque de match, évidemment, elle n'avait pas joué depuis Roland-Garros. Donc, je pense qu'elle peut aller chercher un autre tour à la Miami à Toronto.
Petite note pour dire aussi que celle qui a annoncé sa retraite hier, Serena Williams, a affronté Belinda Bencic. Ça va être compliqué, ce match-là. Profitez-en parce que ça se pourrait très bien que ce soit son dernier match à Toronto. Ça.
Oui, Bencic, une des bonnes joueuses du circuit cette année. Je pense qu'elle aura le dessus sur Serena. Mais Serena le rentre dans son histoire de retraite. Ça va être ça qui va occuper beaucoup d'espace médiatique dans le tennis jusqu'au US Open et après. On en parlait hier. On est d'avis qu'elle a peut-être annoncé ça un peu trop tôt pour la saison d'été. Ça va vraiment mettre le focus sur ça. Elle a ses raisons personnelles pour le faire, sûrement commercial aussi. Mais je pense qu'au niveau tennis contre Bencic, ça ne sera pas un match facile pour Serena aujourd'hui.
Ouais, non, ça c'est certain. Allons faire un tour du côté de Montréal. Parce que là, écoute, je regarde l'horaire, j'ai l'horaire dans les mains présentement. Il y a des matchs spectaculaires, non seulement sur la centrale, le programme du jour est complètement spectaculaire. Il y a des matchs partout qui sont complètement fous aujourd'hui.
Ouais, sortez le popcorn, hein, je l'ai dit. Medvedev, Kyrgios en deuxième match sur la centrale aujourd'hui. Popcorn, extra beurre dans le cas de celui-là. Mais on commence avec un Tommy Paul contre Carlos Alcaraz. Les gens ont très hâte de voir Alcaraz. On le voit depuis le tirage. Il est partout où il passe en ce moment. C'est un peu le chouchou du tournoi. Évidemment, Félix, c'est notre chouchou au niveau local, mais Alcaraz, dans le monde général du tennis, c'est celui qui attire l'attention en ce moment et c'est lui qui ouvre la balle sur le centre.
C'est difficile de pas l'aimer. Il t'en parlait. Le match peut-être le plus spectaculaire depuis le début de la semaine. Le numéro un mondial contre le dernier finaliste à Wimbledon, un gars qui a remporté 3 titres dans les deux dernières semaines, dont un la semaine passée, Medvedev également. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Une finale de Grand Chelem au deuxième tour. Encore une fois, c'est l'anomalie du système de points de cette année. Kyrgios ne devrait pas être si bas à cause des points de Wimbledon qu'il n'a pas pu aller chercher au niveau de sa finale. Et ses trois derniers gains ne pouvaient pas influencer le tableau de Montréal. Donc, nous voilà avec un Medvedev Kyrgios, mais profitons-en parce que c'est un duel hautement excitant et spectaculaire qui nous attend là.
Ce sera suivi de Francis Tiafoe contre Taylor Fritz. Ça devrait être intéressant parce que Francis Tiafoe, c'est un gars avec beaucoup d'énergie sur le terrain. Taylor Fritz a joué un excellent match hier, champion d'un Masters 1000 lui aussi dans sa carrière. Alors, vraiment, on va en avoir plein les yeux. Mais
100% américain et deux joueurs qui ont des bonnes séries envers les US Open.
Exact. Et Francis Tiafoe, d'ailleurs, je me souviens bien, c'est un ancien champion du Challenger de Granby.
Tout à fait.
Et parlant du Challenger de Granby, il y en a deux qu'on a vus là. Ce sont les deux prochains qui vont s'affronter. Yoshito Nishioka contre la vedette québécoise, Félix Auger Aliassime.
Félix en match vedette ce soir sur le central, donc il devrait commencer vers 6h30 ou un petit peu après. L'entrée de Félix, reposée, je pense, après Los Cabos, il y a eu quand même 5-6 jours là, qui sont passés. On est mercredi, donc on a bien hâte de voir Félix. Moi, je vous l'ai dit, je le redis dans nos prédictions, je le vois en gagnant du tournoi. Donc, j'ai fait tous mes choix de façon objective, tour après tour, et Félix, je pense, peut remporter ce tournoi. Bien hâte de voir son entrée en scène ce soir.
Ce qui est un peu... spécial, c'est qu'au départ, on regardait le tableau, on disait, bon, il a un tableau favorable, Félix Auger-Aliassime va affronter un qualifié au deuxième tour.
Ouais.
Et là, ça a changé un peu la donne parce que Nishioka, lui, est rentré parce qu'il est allé loin dans le tournoi précédent.
Ouais.
Il est rentré avec une passe spéciale, si on veut, là, une exemption. Et il se retrouve dans la même partie de tableau de Félix. Et c'est un adversaire qui a battu deux fois Félix en trois matchs sur le circuit de l'ATP. Il l'avait battu à Granby plus tôt.
Fiche gagnante pour Nishioka contre Félix, effectivement. Nishioka, c'est lui qui a sorti Dennis à Wimbledon aussi. Donc, c'est un joueur qui est solide en ce moment sur le circuit. Ça ne sera pas une balade au parc, Jarry, pour Félix. Mais je pense qu'il va sortir en avant.
Oui, je pense que oui. Puis, ils ne se sont pas affrontés depuis 2020. Alors, le Félix de...
C'est pas le même
depuis deux ans, vraiment ouais. pas. Regarde le classement, il est top 10 mondial. En même temps, quand tu sais que tu l'as déjà battu, quand tu sais que tu peux le battre, Nishioka, il va avoir des repères ce soir pour arriver avec de la confiance.
Et il y aura une fébrilité normale sur le central devant les siens pour Félix, mais il peut composer avec ça maintenant.
Et c'est Stefanos Tsitsipas qui va terminer la soirée contre Jack Draper. Évidemment, Stefanos Tsitsipas, un des meilleurs joueurs au monde, un gars qui laisse personne indifférent sur le circuit, mais tout ça pour dire qu'on a tout un programme sur le central. Je regardais, écoute, là, sur d'autres terrains, sur le Cole Rogers, tu as Gaël, mon fils, Maxime Crécy, l'Américain, mais c'est un duel tout français.
Ouais.
Maxime Crécy, Gaël, mon fils.
Oui.
André Roublev aussi qui est sur le court Rogers. Et là, je regardais sur le court 5, tu as un match Marin Cilic contre Karen Achanov. Vous n'avez pas de billet pour le central, vous n'avez pas de billet pour le court Rogers. Colin, vous avez des matchs spectaculaires, des champions de Grand Chelem, des gars qui ont avancé très loin dans des tournois, parmi les meilleurs joueurs au monde. Le spectacle est complètement fou.
Aujourd'hui. Superbe tableau aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas leur billet, faites vite parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Mais c'est ici que ça se passe aujourd'hui.
Alors, Hugues Léger, je te souhaite une excellente journée de tennis. C'était notre mise en bouche pour le Café OBN. Et je te laisse retourner. On est en direct du studio Mazda des Sources. D'ailleurs, où tu vas faire toutes tes interventions. C'est là où je t'envoie. Je te laisse aller faire tes interventions. En direct du studio Mazda des Sources du groupe Delary. Hugues Léger, merci infiniment. Merci à Abraham également à la technique. Et nous, on se reparle demain matin.
Bon tennis.